Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Cet épisode est commandité par Hatch, fier partenaire de la chaire pour les femmes en sciences et en génie. Hatch est une firme de génie conseil dans les secteurs des mines, de l'énergie et des infrastructures. Depuis plus de 60 ans, Hatch apporte à ses clients son expérience technique et commerciale pour concevoir des solutions plus ingénieuses, efficaces et novatrices. Grâce à son implication en matière d'équité, de diversité et d'inclusion, Hatch a été reconnu 3 années de suite comme un employeur de premier plan en matière de diversité et d'inclusion et figure au palmarès des 100 meilleurs employeurs au Canada. Merci à Hatch pour son précieux soutien. Bienvenue dans la 2e saison de Communiquer au féminin, un balado par la chaire pour les femmes en sciences et en génie et animé par Léa Museau et Joël Pelletier-Nollet.
Au travers des épisodes, on vous amène à découvrir des parcours, des projets, des succès en sciences et en génie qui vous sont communiqués au féminin. Aujourd'hui, nous recevons Anne Nguyen. Anne est responsable de la stratégie des données sur la santé du Centre hospitalier universitaire de Montréal. Elle a fait ses études à l'Université de Montréal et à la Harvard Business School. Elle s'intéresse à l'intelligence artificielle responsable et avec les scientifines, elle apporte son soutien aux jeunes filles qui souhaitent s'intéresser davantage au STEAM. Donc bonjour Anne, merci d'être là avec nous pour cet épisode de Balado.
Oui, bonjour Anne, contente de te voir.
Merci de cette invitation, Léa, Joël. J'ai vraiment aimé votre invitation, super sympathique, super dynamique, donc je suis vraiment contente d'être parmi vous aujourd'hui.
Anne, tu es chef des données sur la santé du CHUM et tu as travaillé en intelligence artificielle à l'Institut de cardiologie de Montréal. Donc, on peut utiliser l'intelligence artificielle en santé. En quoi consiste ton travail?
En fait, comme chef de la valorisation et sciences de la donnée du CHUM, puis aussi avec mon parcours à l'Institut de cardiologie de Montréal, je comprends en fait que le rôle, c'est aussi le sens qu'on donne à son travail, puis on donne à la donnée. Puis la saveur, en fait, que je voulais donner, c'est avoir une approche sur plutôt l'humanisation de la stratégie de valorisation et sciences de la donnée. Parce que souvent, les gens associent la donnée à des redditions de comptes, surtout dans les milieux publics comme on est. Puis on voit pas la donnée pour ce qu'elle peut raconter comme histoire. Pourtant, les histoires sont très belles. L'histoire d'une unité de soins, l'histoire de la trajectoire d'un patient, sur l'expérience des employés, sur l'expérience des patients partenaires. Puis aussi, on voit la donnée pour son esthétisme. On veut faire des tableaux de bord, on veut toujours faire des tableaux de bord, on veut faire des visuels, on veut faire des indicateurs. Pourtant, ce qu'il y a de plus beau au niveau de la donnée, c'est comment elle est créée, comment est-ce qu'elle est comprise, comment elle est générée, comment est-ce qu'on prend soin de cette donnée-là pour justement soutenir la performance d'un hôpital puis soutenir les soins aux patients. Donc, pour moi, l'essence même de ce qui est réel, c'est par qui elle est produite, comment elle est produite puis pourquoi elle est produite. Puis, ça raconte, par exemple, une agente administrative qui accueille les patients sans arrêt pendant toute une journée. Raconte l'histoire d'un technicien en laboratoire qui fait de la collecte de données en 2 livraisons d'analyse qui permet à un patient de retourner chez lui ou non. C'est un journalier qui livre du matériel médical au bloc opératoire. C'est un médecin qui remplit un formulaire avec son patient pour un niveau de soins. Donc, ça raconte toutes ces histoires-là qui sont profondément humaines. Puis je pense que c'est cette humanisation qui va faire en sorte qu'on va améliorer la qualité de la donnée pour créer des meilleurs outils de décision grâce à l'intelligence artificielle. Puis à l'Institut de cardiologie de Montréal, j'ai fait vraiment de la transformation numérique. Puis c'est ça, en fait, qui m'a ouvert sur le monde de la donnée. Puis ça a vraiment fait un déclic. Lorsqu'on fait de la transformation numérique, donc on se crée des océans de données, puis il faut être capable de plonger dedans.
Wow, tu parles tellement de façon imagée, j'ai l'impression que la donnée, c'est une œuvre d'art. C'est vraiment beau.
Tu sais, de rendre les concepts moins mathématiques, parce que les gens, ils pensent toujours, ah, la donnée, soit elle s'éloigne, soit ça les intimide, mais effectivement, il ne faut pas être intimidé par la donnée, parce qu'elle raconte une histoire vraiment profonde, puis quand tu es capable de faire la connexion entre les deux, tu fais « Ah, tu sais, j'ai comme cette robustesse décisionnelle qui arrive entre mes mains, puis j'ai le contrôle sur ce que je veux raconter, puis en plus, j'ai la donnée pour, comme preuve probante.
» C'est intéressant de voir que les données, c'est pas quelque chose qui tombe du ciel, mais de voir les personnes qui sont derrière ces, ces données générées. En quoi l'intelligence artificielle peut être bénéfique à la patientèle des hôpitaux et au personnel de la santé, justement?
En fait, en quoi la donnée peut être bénéfique à la clientèle et aux patients, en fait, dans un centre hospitalier, puis surtout les professionnels de la santé, c'est vraiment de le voir sous l'angle d'amélioration de l'efficacité pour permettre aux professionnels de passer du temps de qualité avec leurs patients. Donc, on pense à des actes plus simples d'optimisation, par exemple l'automatisation des tâches administratives, faire la prédiction et la prévention des maladies, avoir une assistance au diagnostic, puis on ne va jamais remplacer un professionnel de la santé. On va plutôt l'outiller avec une bonne assistance pour qu'il puisse avoir plus de temps. On peut créer des suivis plus personnalisés, des soins en fonction des besoins spécifiques de chaque patient. L'éducation et l'information, par exemple, si j'ai vu récemment un projet super intéressant sur la littératie des patients. Donc, on peut rentrer une fiche, par exemple, d'enseignement. Puis, l'engin, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait des propositions pour améliorer la littératie, pour qu'elle soit plus adaptée aux patients. Comme ça, le patient, déjà, quand il est en mode stress parce qu'il est rendu à l'hôpital, il peut être vraiment anxieux, ne retient pas nécessairement tout. Donc, si on adapte bien le langage auprès de lui, il va être plus capable d'être mobilisé auprès de ses soins. Puis ça aussi, l'intelligence artificielle permet de faire ces différentes recommandations-là qui sont vraiment liées à la littératie des patients. Il ne faut vraiment pas penser à l'intelligence artificielle comme si on remplaçait un professionnel, mais plutôt un soutien avec le professionnel en le déchargeant de tâches qui encombrent vraiment son horaire et il va pouvoir passer du temps de qualité avec son patient.
Et en plus, tu as lancé le projet d'entrepreneuriat de Courageous AI. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, puis nous parler de ce qu'est l'intelligence artificielle responsable?
Oui, donc j'ai décidé de faire un plongeon. Tu sais, je parlais de l'océan tout à l'heure, donc j'ai réussi un plongeon, en fait, d'avoir pris le courage, en fait, de faire ce plongeon-là en entrepreneuriat au-delà du travail, parce que j'ai comme une mission plus grande que je voudrais porter, qui est notamment l'IA responsable. Donc, The Courageous AI, donc le courage IA en français, c'est le nom de l'entreprise que j'ai cofondée. Puis dans cette terre dans laquelle on est, on a décidé de fonder cette compagnie pour que les gens puissent utiliser la donnée pour faire avancer l'humanité. Puis en ce moment, ce qui est vraiment important, c'est tout ce qui est promotion de l'IA responsable. L'IA responsable, il faut le prendre comme un humain qui est responsable, donc qui respecte les valeurs, qui est juste, donc qui ne discrimine pas selon la base, par exemple, du genre, de l'âge, de la race, qui respecte la confidentialité. Donc, nous, en tant qu'humains, on ne donne pas plein de secrets à tout le monde, donc on garde la confidentialité, qui est tenu responsable aussi de ses actions. Donc, c'est-à-dire qu'on devrait être capable de toujours corriger le tir. Malgré que ce soit un algorithme qui s'autogénère et qui s'auto-apprend, on doit toujours pouvoir revenir en arrière puis faire des corrections, puis moduler le tir par la suite, puis apprendre de ses erreurs. Donc, dans cette optique-là, on a développé une compagnie sur trois fronts différents. Donc, de un, offrir une campagne qui permet à tous d'apprendre sur l'intelligence artificielle, donc vraiment démocratiser les connaissances pour défaire les mythes dans, tu sais, les grands journaux. Là, l'intelligence artificielle, tu sais, qui fait peur, ça va détruire l'humanité. Bien, c'est beaucoup de mythes qu'il y a derrière le tout. Moi, je suis une fille d'immigrant puis une fière québécoise. Donc, je veux faire la promotion que l'IA produit au Québec, c'est de l'IA responsable. On veut offrir une certification officielle aussi d'IA responsable qui vient avec de la formation à soit des entreprises, des institutions, des fonds d'investissement. Puis finalement, on veut créer un logiciel de recommandation. Donc, on prend ça comme un langage. Tu sais, le français, l'anglais, tu sais, ça vient parfois avec des logiciels de recommandation, tu sais, pour une meilleure syntaxe, par exemple Antidote ou Grammarly. Bien, nous, ce qu'on développe, en fait, c'est un logiciel de recommandation de langage de développement. Donc, le logiciel, il va être en mesure de faire des recommandations sur une meilleure façon de coder pour être plus responsable. Par exemple, le logiciel pourrait détecter si le code utilise des données qui pourraient introduire des biais. Donc, te dire, hey, tu devrais rajouter d'autres bases de données pour balancer les différents résultats qui ressortent. On parle aussi des recommandations sur l'efficacité du code, parce qu'un code inefficace a vraiment un grand impact sur la consommation énergétique et avoir une incidence là, sur l'environnement. Puis le logiciel, il pourrait même faire des recommandations sur les choix d'infrastructures selon le volume de données. Donc, on est vraiment sur ces trois fronts-là.
dans le fond, c'est vrai que, tu sais, avec les médias et tout ça, on a un peu une crainte de l'intelligence artificielle, j'ai l'impression. Puis parler de IA responsable, c'est vraiment rassurant, je trouve. Est-ce que c'est un peu pour ça que ça s'appelle The Courageous AI? Dans le fond, tu sais, c'est le courage de détruire les mythes derrière l'intelligence artificielle. Peux-tu m'en parler plus de pourquoi le nom courageux oui, derrière?
Le nom, en fait, ça vient de la façon que mes racines ont été créées. T'sais, je parle souvent du fait que je suis une fille d'une famille d'immigrants. Puis, ça vient avec avoir été spectatrice de beaucoup de courage de la part de mes parents. Donc, tu sais, d'élever leur voix pour avancer, se faire une place dans la société. Puis, ils m'ont toujours dit, Anne, il faut que tu aies du courage, il faut que tu aies de la cohérence aussi. Donc, les deux combinés ensemble, pour moi, ça fait en sorte que je me suis dit, si je veux porter le courage, je veux aussi me le rappeler à chaque matin. Quand je prends ma tasse de thé, même le nom de ma compagnie va me rappeler que je dois me lever et utiliser cette force-là pour faire avancer les causes.
Oh wow, c'est un beau message. c'est vraiment bien pensé. C'est touchant aussi comme façon de nommer les choses là.
Mais je trouve que c'est bien aussi qu'on parle du côté humain derrière l'intelligence artificielle. Peut-être que ça peut aider les gens à avoir moins peur. Puis pour leur rappeler aussi qu'il y a des biais derrière l'intelligence artificielle puisqu'il y a des humains. Donc, avec des personnes engagées comme toi derrière l'intelligence artificielle, je pense que ça donne beaucoup d'espoir. Donc, toi, tu as beaucoup d'intérêt pour l'intelligence artificielle responsable en contexte d'aide à la décision. Quelle amélioration on peut apporter pour rendre les algorithmes plus équitables? Tu as déjà commencé un petit peu à en parler.
Pour rendre puis améliorer les algorithmes, pour les rendre plus équitables, moi, j'ai toujours trois piliers qui me suivent partout. Donc, tu sais, il y en a que c'est comme un petit démon puis un petit ange. Là. Moi, j'ai trois U là, qui me suivent partout. Les trois U, c'est utile, utilisable et utilisé. Donc, si je garde ces trois U-là en tête, le premier, pour être utile, un algorithme, il doit résoudre un problème réel de manière bénéfique aussi. Pour tous les utilisateurs et pas certaines strates d'utilisateurs seulement, ça permet d'éviter des biais. Donc ça, c'est qu'est-ce qui est utile. Ce qui est utilisable, l'algorithme doit être compréhensible et transparent. Donc la transparence permet de pouvoir justement ajuster et corriger le tir en cas d'erreur. Donc cette transparence-là permet aussi de démocratiser et enlever cette peur-là de « oh, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe derrière l'algorithme » et les gens, en fait, ne pensent que ce n'est pas utilisable lorsqu'ils ne comprennent pas. Donc, c'est vraiment important de toujours garder le deuxième U qui est utilisable en tête à travers une transparence. Finalement, le troisième U, c'est utiliser. Donc, cet algorithme-là doit démontrer qu'il y a une valeur dans un processus qui fait la promotion de l'équité. Donc, par exemple, si on pense à un logiciel de recrutement, son utilisation doit démontrer qu'il a contribué à rendre justement accessibles différents types d'emplois pour une population qui n'aurait pas pu avoir cet accès-là. Donc, utile, utilisable et utilisé.
C'est une bonne réflexion, surtout qu'on a vu beaucoup de technologies qui ont été créées par le passé, puis que clairement, il y avait des biais et que ce n'est pas tout le monde qui pouvait utiliser. Donc, finalement, ce qu'on voulait faire pour améliorer une tâche, par exemple, pour aider, faciliter une tâche, finalement, ça la rendait plus compliquée pour d'autres personnes. comme YouTube, je crois, qui avait voulu faire mettre une application de prise de vidéo sur un téléphone, mais que finalement, on s'est rendu compte qu'en fait, la moitié des vidéos étaient à l'envers, rendues sur la plateforme. C'était tout simplement parce que l'application avait été faite seulement pour les droitiers et non pour les gauchers. Donc, on se rend compte que des fois, la technologie n'est pas toujours... Il y a des biais. Hein. Si l'équipe est que construite de personnes droitières, ben, il y a une Exactement. Partie de la population qui est... Puis des fois, c'est ça, c'est des petites niaiseries comme ça. On se dit, voyons donc voir qu'on n'a pas pensé à ça, tu sais. Mais je suis vraiment contente de voir les trois U. C'est vraiment à garder en tête.
Puis, tu amènes un point vraiment intéressant sur l'imperfection. Puis, lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, les gens pensent toujours qu'il faut que ce soit parfait, on n'a pas le droit à l'erreur. Par contre, on se rend compte que plus tu mets et tu rends l'intelligence artificielle accessible à tous avec une belle acceptabilité sociale, ce qui fait en sorte c'est que des biais sont corrigés. La donnée est améliorée. Puis il y a des meilleurs outils qui peuvent sortir de là, mais au départ, il faut accepter que ce ne sera pas parfait. Donc, au lieu de développer dans un silo fermé avec des gens, comme tu dis, par exemple, dans une expérience utilisateur, que des droitiers, dès que tu le mets dans une version minimalement viable auprès de la population, très rapidement, il y a des rétroactions puis des boucles de rétroactions qui font en sorte qu'il y a une amélioration. Puis ça aussi, ça vient avec une culture égalisatrice qui vient avec la compréhension de l'intelligence artificielle. Donc, j'adore l'exemple que tu viens de donner sur droitier puis gaucher.
La perfection aussi, souvent, ça ne prend pas en compte toute la diversité humaine. Comme tu es une personne engagée, tu t'impliques également pour les scientifines dont la mission est de promouvoir les sciences, technologies, ingénierie et mathématiques auprès des jeunes filles qui viennent de quartiers défavorisés. C'est quoi ton rôle au sein de l'organisme et puis qu'est-ce qui t'a amené à t'y impliquer?
La mission de les scientifines, pour moi, c'est un coup de cœur absolu. Ça fait plusieurs années que je m'implique auprès d'elles. Je suis présentement présidente du conseil d'administration. Ça fait quelques mandats déjà. Puis il y a beaucoup de choses qui m'ont amenée à m'impliquer. Puis c'est vraiment des choses positives. T'sais, il y a certaines personnes qui s'impliquent parce qu'ils ont eu des expériences extrêmement négatives et ils veulent faire changer les choses. De mon côté, en fait, c'est que j'ai eu beaucoup de positifs dans ma vie grâce à la science, puis c'est comme ça que je voulais redonner. Tu sais, je suis une fille, puis je le dis tout le temps, je suis une fille de famille d'immigrants, je pense que vous l'avez compris. Moi, j'ai vu mes parents travailler 3 emplois à la fois, apprendre la langue à travers ça, m'offrir les plus belles éducations, puis je me suis vraiment promis que j'allais faire quelque chose de plus grand que moi. Puis mon père m'a appris le français, un peu cassé à travers une émission qui s'appelle Les Découvertes à Radio-Canada. Puis on l'écoutait à chaque dimanche de façon vraiment religieuse. Puis je sais que mon père, il comprenait pas tout, mais il me regardait regarder l'émission. Puis c'est ça l'image que j'ai de lui. Donc maintenant, peu importe les actions que je fais, on dirait que je me dis, ah, mon père, il est là, puis il me regarde, qu'est-ce que je fais avec ce que j'ai appris? Donc ça m'a vraiment ouvert vers un monde qui était tout nouveau, qui était vers la science. Puis moi, je crois fermement que l'épanouissement, la confiance en soi, ça permet de te dépasser, puis ça permet de ne pas avoir peur de l'échec non plus. T'sais, aller vers l'excellence plutôt que la perfection, puis d'avancer, contribuer à un monde meilleur. Donc, il y a tellement de compétences qui viennent avec la science, puis les scientifiques m'ont vraiment touchée à cause de leur mission.
C'est vraiment beau ce que tu dis là, vraiment. J'en ai des frissons. L'organisme des scientifiques a mené une étude pour connaître son impact auprès des participantes qui ont fréquenté l'organisme de 2001 à 2006. Est-ce que tu peux nous partager quelques faits saillants de l'étude?
Effectivement, les scientifiques ont un impact incroyable dans la communauté. Puis cette étude d'impact-là est vraiment venue soutenir tout ce qu'on pensait que les scientifiques étaient capables de faire. Ça fait 35 ans que les scientifiques existent. C'est né de psychologues, en fait, qui ont étudié ce qui pouvait avoir une incidence positive sur les jeunes filles en milieu vulnérable pour qu'elles se développent mieux, qu'elles sortent aussi de ce cycle de vulnérabilité. Puis, elles ont découvert la science, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques. Puis, cette année, en fait, à chaque année, depuis quelques années, il y a un expo science à la saveur des scientifines. Puis, en fait, pour montrer l'impact, je vous crée cette image-là. Donc, on est en train de remettre des prix. Puis, par exemple, moi, j'ai remis un prix. Il y a des bénévoles qui ont remis des prix. Il y a des bailleurs de fonds qui ont remis des prix. Puis, à un moment donné, il y a une femme, une magnifique dame qui monte sur l'estrade. Et elle, son but, c'est de remettre un prix aussi. Puis, elle s'est présentée. Je suis directrice adjointe dans une école de quartier. Puis vous savez, elle fait partie des cohortes des scientifiques. Elle venait d'un milieu vulnérable, puis elle est directrice adjointe d'une école aujourd'hui, grâce aux scientifiques. Donc ça, au-delà de tous les chiffres qu'on pourrait sortir de cette étude d'impact, je pense que c'est la plus belle preuve de l'impact, l'augmentation du taux de scolarisation. Mais surtout, elle était magnifique à voir les applaudissements des jeunes filles qui voyaient ce modèle-là avoir grandi puis avoir réussi. Ça, c'était vraiment l'impact réel qu'on pouvait ressentir.
Donc, si je comprends bien, la mission en tant que telle des scientifiques, c'est pas nécessairement que les filles aillent en sciences, technologie, mathématiques, génie plus tard à l'université ou au cégep. C'est vraiment plus qu'elles aient accès à un milieu sécuritaire puis qu'elles apprennent à aimer l'école, dans le fond, les études, qu'elles puissent avoir des modèles de persévérance, etc.
Exactement. Puis tu l'amènes vraiment bien dans l'organisme. Il y a des éducatrices scientifiques. Ces éducatrices scientifiques ont vraiment une image de leadership auprès de ces jeunes filles-là. Ces jeunes filles-là viennent de milieux où les parents, tout comme moi, que j'ai grandi, si mes parents avaient beaucoup de travail, ne comprenaient pas bien ce qui se passait à l'école à cause de la barrière de la langue, donc se retrouvaient à l'école. C'est comme une ceinture de sécurité qu'on est en train de créer pour ces jeunes filles-là, où est-ce qu'ils peuvent aller à la fin de la journée, avoir accès à ces modèles-là, poser leurs questions, avoir des réponses. Mais surtout, la science, cet accès-là, ça crée l'apprentissage sur des compétences transversales. La confiance en soi. Comment faire une hypothèse? Puis se dire que si mon hypothèse, elle est fausse, c'est pas grave, j'ai juste éliminé une voie de solution, je vais en trouver une autre, puis c'est ça qui est beau avec la science. Puis c'est ça, en fait, qui permet aux jeunes filles de continuer à s'épanouir, mais surtout d'avoir confiance en elles-mêmes. Parce que les gens pensent que quand tu as un échec, tu perds ta confiance, mais quand tu as un échec à travers les scientifiques, c'est « Hey, qu'est-ce que tu as appris? On va aller plus loin, on va explorer d'autres choses. »
Oui, c'est ça, ça développe la résilience, dans le fond aussi, la confiance et la résilience. Oui. C'est super beau.
Puis moi, je trouve ça très émouvant aussi de voir des récits de modèles qui encouragent ces jeunes filles-là. Et en parlant de modèles, Anne, toi, tu donnes également des cours à des étudiantes de niveau collégial à travers le programme Future Leader en Tech de Concertation Montréal. Donc, il y a pour objectif de former des jeunes étudiantes aux technologies pour qu'elles puissent les transmettre à leur tour à des adolescentes du secondaire. Est-ce que tu peux nous parler des apprentissages?
En fait, le programme Futur Leader en Tech de Concertation Montréal, ça aussi, c'est un de mes programmes coup de cœur. Puis je salue les gens de Concertation Montréal qui ont créé ce programme-là, qui a l'air difficile à comprendre. Tu sais, comment ça se fait qu'il y a des mentors qui créent des futurs leaders, qu'eux se présentent devant. Au départ, ce cycle-là est un petit peu difficile à comprendre, mais il y a toute cette logique-là derrière. Puis ce programme-là, il est génial parce que ça te permet d'adresser un 360. C'est-à-dire qu'on ne fait pas seulement un apprentissage puis un enseignement sur le savoir-faire technique, mais vraiment en termes de leadership. Donc, comment monter un projet complexe? Comment le présenter? Donc, on parle de mobiliser un auditoire, de vulgariser, savoir communiquer, avoir confiance en soi. Puis, est-ce que je dois vraiment dire que le public le plus difficile pour n'importe quel âge, c'est le public du secondaire? Moi, j'ai 40 ans, puis lorsque je dois donner des ateliers devant le groupe de secondaire, je dis « la plus grande critique, ça va être eux ». Donc, imaginez-vous des jeunes filles du cégep que parfois, ils ont juste un an ou deux ans de différence et se présentent devant des groupes de secondaire. Comment ça demande du courage? Donc, pour moi, ce test-là, c'est vraiment un test ultime là, pour les mettre de l'avant. Moi, je dis toujours trois choses. S'ils sont empathiques, s'ils sont authentiques, s'ils sont logiques, elles sont capables de tout faire. L'empathie, en fait, pour comprendre puis ressentir les émotions et le contexte de la réalité des autres. L'authenticité envers soi-même puis les autres, parce que ça renforce le respect et la confiance. Et la logique, parce que ça te permet de prendre des décisions judicieuses aussi. Ça te permet de naviguer de façon efficace dans le monde. Puis on sait que le monde, parfois, c'est pas linéaire. Hein? Le monde, parfois, il y a des accros, il y a des obstacles, il y a des succès. Après, tu peux retomber, après, tu peux te relever. Donc, quand tu as l'empathie, l'authenticité puis la logique, à un moment donné, tu es capable de balancer les trois pour bien avancer. Il y a une histoire, en fait, d'une jeune fille que j'ai rencontrée à travers le programme. Puis, c'est une fille extrêmement issue de la diversité. Elle était vraiment réservée. Jamais elle s'est présentée sur un stage sur une scène dans le passé, puis elle devait être sur la scène pour présenter les principes d'intelligence artificielle responsable. Et tout d'un coup, j'ai vu cette fille-là faire une blague pour se détendre elle-même, parce qu'elle était authentique avec elle-même, elle savait qu'elle était stressée, et ça l'a fait rire l'auditoire, mais de façon très bienveillante. Et là, tout d'un coup, là, j'ai vu cette magnifique jeune fille-là avoir les lumières dans ses yeux. Puis là, aujourd'hui, elle a été acceptée à l'université en ingénierie. Elle continue à faire des conférences. Elle m'a écrit pour me dire que la prochaine chose, la prochaine étape, le prochain défi qu'elle se donne, en fait, c'est de s'impliquer dans la communauté, justement pour diffuser le leadership qu'elle a appris. Donc ça, pour moi, là, ça a été vraiment le déclic, la lumière dans ses yeux. J'ai dit, là, on a vraiment réussi quelque chose avec ce programme-là.
On a trouvé sa vraie personnalité.
Exactement, elle s'est trouvée.
Oui, c'est ça. Puis toi, justement, c'est quoi les astuces que tu peux donner aux filles pour qu'elles trouvent ce genre, qu'elles trouvent la confiance en elles ou qu'elles trouvent l'empathie, l'authenticité et la logique dont tu parles depuis tout à l'heure?
Je pense qu'il faut vraiment être toujours en mode écoute active. Puis ça a l'air très générique, l'écoute active, la bienveillance, la résilience, mais je pense que ça part de là. Quand tu arrives à faire le vide pour faire le plein, ça te permet d'ingérer de façon différente toute l'énergie qui est autour de toi. Tu sais, on est dans un monde où est-ce qu'on est surchargé de stimulation, il n'y a plus de vide. Puis parfois, ces filles-là, tu sais, puis je sais que c'est bizarre de ma part parce que je m'occupe énormément, mais me mettre en situation où je m'ennuie, c'est extrêmement important. Où je fais le vide, c'est extrêmement important parce que c'est à travers ce vide-là puis cet ennui-là que je deviens créative. Puis dans cette créativité-là, il n'y a rien qui est plus authentique. Et là, dans cette authenticité-là, tu fais « qu'est-ce que je peux faire pour transformer, pour que ce soit utile? » Donc là, tu utilises ton empathie, tu te poses des questions. Est-ce que c'est seulement moi qui se sens de cette façon-là? Ou le projet que j'imagine, comment est-ce que je peux l'adapter à d'autres publics pour que ce soit utile, utilisable et utilisé par d'autres personnes? Et comment est-ce que je fais pour que ce rêve-là ou cette créativité-là soit implantée dans un milieu réel? Et c'est là que tu utilises ta logique pour découper ton grand rêve en petits morceaux digestes et d'avancer. Comme ça, dans la vie, tu n'es jamais en latence. Et une fois de temps en temps, tu fais le vide, tu te recentres, tu te retrouves, tu redeviens avec une créativité authentique et là, tu recommences. L'empathie, la logique, tu te reposes, tu te déposes, tu avances tes projets. Donc, ainsi de suite, je pense que c'est comme ça, en fait, que tu continues à grandir en tant que personne.
C'est vrai, c'est pas la première fois que j'entends parler de ça, surtout dans le milieu créatif. On est, tu sais, surstimulé avec la technologie, puis on est toujours sur nos téléphones et tout ça, puis on voit plein de contenus créatifs, mais souvent, les contenus créatifs, on se rend compte qu'ils se répètent aussi, hein? Puis on se rend compte que finalement, ben, peut-être qu'il faudrait plus s'en aller, s'éloigner des réseaux sociaux ou de la technologie pour faire le vide puis faire réjaillir cette petite étincelle-là de créativité. Donc, oui, ça a pas mal de sens ce que tu dis là, Anne.
Ah, oh, merci. En fait, est-ce que vous savez ce que j'ai fait récemment? Et là, je pense que j'ai choqué le monde entier. J'ai appelé quelqu'un qui m'a texté.
On fait plus ça aujourd'hui.
Et là, je l'ai appelé. Elle dit, pourquoi tu m'appelles? J'ai dit, en fait, je suis tellement tannée de texter et de cette stimulation juste visuelle et tactile que j'ai dit j'avais besoin d'entendre la voix de quelqu'un dans mes oreilles. Puis je pense que c'est un petit peu ce cycle-là, tu sais, d'humanisation que j'essaie de retrouver en faisant le vide. Donc, tu sais, j'essaie de reconnecter avec certains sens que, pour moi, j'oublie, comme l'écoute.
Oui, je comprends tellement. De tes expériences auprès des femmes puis des personnes immigrantes, est-ce qu'il y a des situations discriminatoires qu'on t'a rapportées ou que tu as personnellement vécues qui t'ont permis de développer des outils pour mieux aborder ces situations-là?
Moi, j'ai rencontré un groupe de femmes du réseau des jeunes femmes leaders, toujours de Concertation Montréal, qui créent vraiment des beaux programmes, là, si les gens ont la chance d'aller regarder les différents programmes disponibles. Puis, je me suis entendue dire la pire phrase au monde. Vous savez quoi, les filles? Je n'ai jamais eu droit à de la discrimination. J'ai eu beaucoup de chance et j'ai vraiment dit, est-ce que ces mots-là ont vraiment ressorti de ma bouche? Pourquoi est-ce que j'aurais de la chance de ne pas avoir été discriminée? C'est pas normal d'être discriminée, donc ça devrait pas être une chance de ne pas être discriminée. Donc ça a été vraiment une leçon de... Tu sais, les gens étaient comme, oh wow, félicitations. C'est tellement un non-sens de se faire féliciter de ne pas avoir été discriminée. J'ai commencé quand même à le décortiquer. Puis, on m'a présenté différents types de discrimination. Tu sais, moi, je ne suis pas trop dans la victimisation, là, mais je pense que c'est important parfois d'identifier pour pouvoir mieux soutenir. Puis, ce qu'on m'a dit, en fait, c'est que probablement que j'ai eu droit à la discrimination bienveillante. En tant qu'Asiatique, souvent, c'est le type de discrimination qu'on reçoit. C'est pas maladif. C'est juste que quand tu t'en rends compte, tu es capable, en fait, de pallier avec certains outils. Donc, tu dois être bonne en mathématiques. T'sais, tout d'un coup, on me croise dans la rue, puis là, on me donne une grosse formule mathématique comme si j'allais être capable de le faire comme ça. Donc, ça, c'est quand même discriminatoire, même si c'est positif. Ah, sûrement que tu es gênée de dire ton opinion. Ah, pauvre toi, tu es toute petite. Ah, tu dois être fragile. Donc, tu sais, ces petits éléments-là qui ont vraiment de la bienveillance, c'est un type de discrimination. Puis, j'aborde en fait ces situations-là avec toujours un peu d'humour parce que je veux replacer les gens mais de façon courtoise. C'est « Ah, est-ce que tu dis ça parce que je suis petite? Ah, est-ce que tu dis ça parce que je suis asiatique? » Ou on dirait que de le redire avec un peu de légèreté fait une prise de conscience envers les autres. T'sais, moi, je ne suis pas quelqu'un qui rentre dedans. Donc, c'est sûr que moi, je ne vais jamais approcher ce type de discrimination avec une pancarte. Il y a des gens qui sont bons pour faire ça, puis je les admire beaucoup. Moi, c'est plus à travers l'humour que je vais le faire. Toujours parce que je pense qu'il y a toujours une belle conversation qu'on peut avoir avec ces différentes personnes-là qui te discriminent. Puis souvent, ça part d'une certaine ignorance ou ça part d'un certain humour mal placé. Donc, il ne faut pas le voir de façon très mesquine. Tu sais, ça dépend des situations, mais disons, je parle de la mienne où ça n'a jamais été très, très mesquin. Mais je pense que si tu agis, tu utilises ta voix de courage, de cohérence, bien, tu fais avancer la cause. Puis de plus en plus, même si on identifie différents types de discrimination, c'est pas pour se mettre en victime, mais c'est plus pour créer des outils pour qu'on puisse éliminer tranquillement ces micro-discriminations-là.
C'est sage!
je sais!
Puis, qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes justement qui peuvent vivre ces situations de discrimination?
Je pense qu'il faut vraiment être authentique. Je pense que dans l'authenticité, ça te permet d'adresser toutes ces questions-là. Par exemple, si tu n'es pas le genre de personne justement à prendre une pancarte et à aller militer dans la rue, c'est pas la seule façon de défaire ces différents mythes discriminatoires. Si c'est avoir une conversation avec les personnes, si c'est d'écrire un récit, si c'est éduquer, créer une formation, si c'est de faire un podcast ou être enregistré à travers un podcast, écrire un blog. Tu sais, je pense qu'aujourd'hui, il y a tellement de médiums différents qu'on peut faire ressortir ces différentes valeurs-là qui feraient avancer la société. Donc, mon conseil, c'est toujours agir avec authenticité, mais agir en faisant en sorte de jamais faire reculer l'humanité. Ça a l'air gros, tu sais, de dire « Ah, tu sais, je veux pas faire reculer l'humanité. » Mais en fait, c'est des petits pas d'acceptation parfois. Tu acceptes une petite discrimination, mais pour moi, tu fais un peu reculer l'humanité de tout ce qu'on essaye de faire pour la faire avancer. Donc, quand tu as ça en tête, ben, tu agis avec courage puis cohérence pour pouvoir adresser ces différentes situations-là.
Tout en étant dans le respect de ses propres limites également.
Tu sais, j'ai appris en fait, tu sais, ChatGPT. Tu sais, on l'utilise tout de façon différente. Puis moi, parfois, j'encourage les gens à le faire, tu sais, homme, femme, peu importe, là, de l'utiliser. Disons que tu es très fâché, puis tu veux adresser une situation, puis là, tu n'as pas envie de faire un post super négatif qui va polariser le monde. Écris-le dans ChatGPT, puis demande à ChatGPT, peux-tu le rendre constructif? Et là, ChatGPT te le rend de façon constructive. Et là, tout d'un coup, tu apprends un nouveau vocabulaire. Hey, c'est vrai que j'aurais pu dire ce mot-là au lieu de ce mot-là. J'aurais pu utiliser tel verbe au lieu de tel verbe. Donc, Utiliser la technologie, l'intelligence artificielle aussi pour t'auto-améliorer, je trouve que c'est vraiment amusant aussi. Puis j'ai déjà écrit un texte à ChatGPT, puis j'ai demandé, ah, oh, peux-tu en faire un texte shakespearien? Puis c'était pour me faire rire, et là vraiment, il m'a sorti comme si c'était une pièce de théâtre, puis ça m'a fait vraiment rire en fait. Donc, utiliser la technologie pour t'auto-améliorer toi-même quand tu es vraiment fâché, au lieu de poster sur les médias sociaux un message très haineux, passe par ChatGPT, demande-lui de le rendre positif et peut-être que tu vas apprendre quelque chose aussi.
C'est très créatif aussi comme façon de faire.
En tout cas, je prends des notes.
Moi aussi.
Oui!
Ben, je vais changer un petit peu de sujet, mais il y a un concept qu'on appelle le syndrome du grand coquelicot, aussi appelé phénomène de couper les têtes qui dépassent. On l'observe souvent autour de femmes ambitieuses. D'ailleurs, en 2023, une étude a été réalisée par l'organisation Women of Influence Plus. Et ça a montré que près de 87% des répondantes se retrouvaient dans cette situation où la femme est isolée et critiquée du fait de son succès. Est-ce que c'est un phénomène que tu as expérimenté ou dont tu as été témoin?
C'est vraiment une statistique quand même choquante que je veux décortiquer un petit peu. Je pense que parfois la femme a une tendance de se sentir imposteur et peut voir des signaux par manque de confiance en soi. Donc, je dirais que cette statistique-là, il faut le voir avec une valeur, avec un petit grain d'erreur, là, peut-être un 10%, où est-ce que les gens doivent grandir puis prendre leur place et pas avoir le syndrome de l'imposteur. Donc, disons qu'on descend cette statistique-là un petit peu, reste que ça demeure un gros pourcentage. Est-ce que je l'ai vécu dans la vie, ce syndrome-là? Je l'ai vécu de façon différente. Moi, je me suis déjà fait dire, ah, la petite fille avec un grand poste. Donc, ça voulait dire beaucoup de choses. Ça voulait dire, de un, que physiquement, on m'avait jugée. Parce qu'on m'avait dit, ah, tu dois pas avoir 30 ans. Tu sais, j'en ai 40. Bon. De un, pourquoi est-ce que tu me juges selon mon apparence? De deux, pourquoi est-ce qu'une fille pourrait pas avoir ce type de poste? Comme Chief Health Data Officer dans le monde entier, il y a 75% que ce sont des hommes. Et c'est pour ça, en fait, que je salue aussi le CHUM d'avoir osé choisir une femme pour être à la tête de la stratégie de valorisation et science de la donnée, parce que pour eux, moi aussi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de courage, parce qu'on est dans un milieu public plus institutionnel, et le profil d'évolution et de promotion se fait d'une certaine façon aussi. Donc, moi, je les salue pour ça. Donc, avoir reçu le Ah, la petite fille avec un grand poste, pour moi, ça m'a quand même mis face à une réalité. Je dis, je veux plus jamais que cette phrase-là, là, je l'ai reçue, mais je voudrais pas que ma fille le reçoive plus tard. Je voudrais pas que mon fils le dise. Je voudrais pas que mon fils, s'il se retrouve dans un milieu plus féminin, reçoive la même chose à l'inverse. Moi, j'ai trois petits frères aussi, puis je veux vraiment conscientiser mes petits frères pour être des bons hommes, pour encourager ces femmes-là et la diversité. Donc, j'ai entendu des grandes dames aussi, comme des Isabelle Hudon. Isabelle Hudon, là, qui est à la tête de la BDC, par exemple, avoir été discriminée. Donc, ce que nous, on essaie de mettre en place à travers les différents réseaux de femmes, c'est de pouvoir se tenir ensemble, se donner confiance et s'ouvrir les portes. Tu sais, sois toujours la femme qui replace la couronne d'une autre femme dans une assemblée. Tu sais, sois toujours la personne qui va faire rayonner d'autres personnes autour de toi. Donc, tu sais, moi, je me donne cette mission-là de me dire, si je reçois un rayon de soleil, je vais essayer d'en diffuser 10. Je vais essayer de le distribuer. Puis, je pense que c'est de cette façon-là qu'on peut éviter l'effet coquelicot, parce que de un, tu agis sur deux fronts différents. Tu agis sur la confiance de la personne qui va plus se sentir comme un imposteur lorsqu'elle va recevoir des commentaires comme moi j'ai reçu, ah, la petite fille avec un grand poste. Et on va agir sur la société aussi pour dire, hey, nous, on est fortes, on se tient, on est capable d'avancer ensemble. Donc, tu sais, quand j'étais jeune, moi, je ne comprenais pas pourquoi il y avait autant de groupes de femmes. Puis même qu'à un moment donné, j'avais refusé d'intégrer un groupe de femmes. Je m'étais presque sentie insultée, comme pourquoi est-ce que tu me demandes d'intégrer un groupe de femmes. tu penses vraiment que je suis différente? Puis là, je m'en veux. T'sais, si je pouvais retourner vers l'arrière, je me donnerais une pichenote derrière la tête. Puis je dis, tu sais, c'est tellement important ces groupes-là parce qu'il y a des gens qui comprennent ta réalité. Puis c'est de briser cette solitude-là qui va faire en sorte que, de façon collective, on va gagner en confiance en soi et on va faire avancer la cause.
Je me demandais, je ne sais pas ce que toi tu en penses, mais le phénomène de couper les têtes qui dépassent, est-ce qu'on voit plus ça... Est-ce que c'est plus les hommes qui coupent les têtes qui dépassent ou les femmes qui coupent les têtes, les têtes qui dépassent ou c'est un peu les deux? Je sais pas toi comment tu l'as vécu, mais j'ai comme l'impression qu'il y a des fois une compétition même entre femmes parce qu'il y a peu de postes en fait. Il y a peu de hauts postes et peu d'ouverture à avoir des femmes dans ces postes-là. Donc, oui, j'ai comme l'impression que la compétition parfois peut être forte, mais est-ce que c'est encore vrai? J'aimerais t'entendre là-dessus.
C'est une très bonne question parce qu'il y a un grand fond de vérité, puis je pense que tu es intuitive d'avoir posé la question de cette façon. Parce qu'effectivement, les gens qui m'ont mis le plus de bâtons dans les roues au début de ma carrière, c'était d'autres femmes. Parce que c'était une autre époque. Moi, j'ai commencé en gestion, ça fait déjà 10 ans passés. Ça fait 18 ans que je suis dans le réseau de la santé. Puis, il y a 10 ans passés, on était encore dans l'époque des power suits, des power women. Des femmes, en fait, qui n'avaient pas le choix. Puis, c'est là que j'ai utilisé mon empathie. Elles n'avaient pas le choix d'être en suit, parler plus fort, se montrer un petit peu ardentes pour faire leur place parmi les hommes. Puis ces réflexes-là qu'elles se sont créés pour faire face aux hommes, elles les ont reproduits auprès de d'autres femmes et d'autres jeunes femmes qui voulaient monter aussi en strade. On est 10 ans plus tard et la société a complètement changé. On est dans une société où les autres femmes disent « Hey, vous savez quoi? L'autre génération amène quelque chose de superbe qui est l'authenticité. On n'a plus besoin d'être en power suit. » Moi, je suis en Converse aujourd'hui. Ça ne dérange plus. J'ai plus besoin de porter des talons hauts pour dire « Hey, Anne, c'est une femme importante, elle a une notoriété. » Ça, en fait, c'est la beauté d'être dans une intelligence collective. C'est qu'à un moment donné, ces femmes-là qui étaient en mode « power suit » et faire leur place, ont commencé à s'ouvrir grâce à des groupes de femmes, grâce à l'ouverture vers d'autres générations pour dire « On n'a plus besoin d'être comme ça. » Aujourd'hui, on a le droit d'être des femmes en pantalon, en Converse, pour être quand même des leaders dans la société.
C'est vraiment génial. Tant mieux, je suis contente d'entendre que c'est mieux qu'avant. Puis probablement que aussi les différentes politiques pour intégrer mieux les femmes dans les milieux de travail doivent aider à ce changement-là. Veux pas. Par exemple, la conciliation travail-famille, on sait que bon, au Québec, je pense qu'on est quand même assez avancé. Il y a des différences avec d'autres pays, c'est certain, mais c'est quoi les côtés positifs que tu vois à la conciliation travail-famille au Québec? Puis est-ce qu'il y a des choses qui restent à améliorer selon toi?
Premièrement, j'adore être maman. J'adore avoir ma famille au Québec. Vraiment, là, on adore le Québec. Pour tout ce que tu viens de nommer, je pense qu'on est vraiment avancé comme société. Il y a beaucoup de gens qui nous envient. Tu sais, notamment, on entend toujours parler des différents aspects comme le congé parental qu'on peut partager. Donc ça, c'est les plus grands classiques. Non? Mais moi, je veux l'amener vers un volet un petit peu différent sur l'ethnicité. Tu sais, au Québec, là, on a la chance d'être tellement diverses et inclusifs. Qui fait en sorte qu'on peut être teinté de ce que les autres cultures peuvent nous amener. Par exemple, avoir la présence de nos parents proches de nous. T'sais, ça, c'est une belle inclusion dans notre quotidien que d'avoir les beaux-parents, les parents proches, puis que ce soit accepté dans notre société. Puis ça vient des autres cultures aussi. Ça vient pas juste du Québec. Je pense que le Québec a été teinté, en fait, de cette... de cet apport culturel-là qui est un petit peu différente. Chez nous, les personnes âgées restent dans la maison, il y a les petits-enfants, il y a vraiment tout le monde. Donc ça l'aide aussi à la conciliation vie-famille. Parce que c'est pas juste parents-enfants, hein. C'est de couple, c'est de l'extension, c'est des proches, c'est de tes parents, c'est de tes oncles, de tes tantes. Puis cette conciliation-là, vie-famille, ça se veut comme une communauté. Je regarde aussi l'écosystème de l'éducation qui ont créé cette grande programmation super diverse en termes d'activités que tu peux faire avec tes enfants, pour les enfants, pour apprendre plus, pour avoir des discussions avec eux. Tu sais, avant, conciliation vie-famille, c'est as-tu trouvé un service de garde pour faire tes devoirs par des éducatrices à tes enfants, comme ça, quand tu rentres à la maison, tu n'as pas les devoirs à faire. Mais là, aujourd'hui, dans ce nouveau monde moderne, ce n'est pas juste l'aide aux devoirs, c'est des activités scientifiques vraiment le fun, c'est des cours de théâtre, c'est du ballet, c'est faire de la cuisine, puis tout ça, ils l'amènent à la maison, puis ça te rend des meilleurs parents par la suite. Donc, cette conciliation vie-famille-là est vraiment poussée à un niveau autre au Québec. Je pense que pour faire avancer la cause, puis lorsqu'on parle de la cause, c'est vraiment la conciliation vie-famille, je pense qu'il faut l'adresser pas seulement en termes de carrière, qui sont plus des professionnels, des experts, des médecins, des avocats, ou est-ce que déjà il y a comme ce contexte-là qui te permet d'être un petit peu plus flexible dans ton horaire. Je pense que la conciliation vie-famille, si le Québec peut aller plus loin, c'est de l'adresser à des emplois pour les rendre un peu plus flexibles. Tu sais, des emplois au salaire minimum que tu es obligé d'être là de 9 à 5. Si tu arrives à 9h05, je suis désolée, mais l'employeur est vraiment fâché contre toi. Si tu pars à 4h moins 10 parce qu'il y a une urgence à la garderie, tu te fais réprimander. Donc, c'est souvent ces métiers-là qui sont à salaire minimum ou des gens de classe moyenne qui se font le plus réprimander. Puis pourtant, c'est eux qui ont vraiment besoin encore plus de cette conciliation vie-famille de façon sociétale.
Ah, oh, c'est vrai, jamais vraiment pensé à ça. Effectivement, tu apportes une bonne réflexion à avoir, une réflexion de société, honnêtement.
Puis pour finir, ma dernière question, ce serait de savoir, est-ce qu'il y a une femme qui t'inspire particulièrement dans ton domaine?
Là, puisque la question est au singulier, je vais essayer de répondre de façon unique, même s'il y a vraiment beaucoup de femmes locales à Montréal, au Québec, qui font vraiment une grande différence, surtout dans le monde scientifique. Mais celle que je veux mettre en lumière dans ce podcast-là, c'est Cathy Malas. Cathy Malas qui travaille au CHUM. Elle a mis en place tout le volet de l'innovation. Donc, elle a créé le pôle de l'innovation et de l'intelligence artificielle au CHUM. C'est une femme pionnière extraordinaire qui fait avancer la cause de l'innovation à travers justement des valeurs sociétales, l'acceptabilité sociale, l'opérationnalisation de l'intelligence artificielle pour avoir un vrai impact sur le patient. Puis pourquoi est-ce que c'est si important de l'adresser de cette façon-là, puis pourquoi on doit l'admirer à cause de ce qu'elle fait, c'est qu'on est dans un monde quand même, dans un carcan hospitalier, public. Donc, faire avancer des causes de cette façon-là, il faut une force extraordinaire pour faire défaire les frontières, défaire les mythes, surtout les mythes liés à l'innovation puis l'intelligence artificielle, parce que les gens voient ça comme des confettis. C'est parce qu'on en met partout. Comme dans un mariage, là. On lance des confettis, on parle d'innovation, on lance des confettis, on parle d'intelligence artificielle. Mais cette femme-là, elle est capable de rassembler toutes ces confettis. Oui, on va célébrer l'intelligence artificielle, on va célébrer l'innovation, mais on va la célébrer parce qu'on aura réussi à l'implanter en milieu réel pour faire la différence auprès des patients. Donc, Cathy Malas, elle est aussi professeure au HEC. C'est une amie extraordinaire. Ça fait des années qu'on se connaît. On a commencé au CHU Sainte-Justine ensemble. Puis, malgré le temps, mon admiration envers elle ne s'est jamais effritée. Au contraire, plus on avance ensemble, plus je l'admire parce qu'on devient de plus en plus international avec l'intelligence artificielle. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'intelligence artificielle, c'est un langage en soi, donc ça l'ouvre les frontières. Mais lorsque tu ouvres des frontières, mais là, tu fais face à des problématiques qui ne sont plus locaux, qui sont au-delà de ce que tu pouvais imaginer. Tu sais, c'est parfois culturel, c'est parfois plus engrainé dans différents endroits. Donc, c'est pour ça que mon admiration envers elle est grandissante, parce que je la vois prendre des missions qui sont beaucoup plus grandes que ceux qui sont locales.
C'est effectivement un profil super intéressant. Peut-être qu'un jour, on la retrouvera sur notre balado, qui sait? Merci pour ce partage.
Ça me fait vraiment plaisir.
Mais merci beaucoup, Anne, pour tout ce que tu nous as apporté. J'avoue que j'ai été émue au moins 3 fois par les récits que tu nous as contés. Donc, merci beaucoup.
Oui, merci, Anne, d'être passée sur notre balado. En tout cas, on a vraiment beaucoup appris. J'ai bien aimé discuter avec toi, puis au plaisir de se recroiser dans la vraie vie un jour.
C'est sûr et certain. Le monde est petit, hein? Le monde, on pense qu'avec le virtuel, c'est super grand, mais on finit toujours par croiser les gens à un endroit ou à un autre, surtout à Montréal, surtout au Québec. Puis vraiment, Léa, Joël, merci pour cette belle animation. Vous m'avez fait ressortir des émotions que je ne pensais pas faire ressortir à travers un balado. Puis, c'est pour ça, je vous en remercie vraiment beaucoup.
Donc, on a reçu Anne Nguyen. On a vraiment une discussion intéressante. Toi, qu'est-ce que tu retiens, Joël, de cette discussion?
Pour ma part, j'ai vraiment appris à connaître une personne en tant que telle. J'ai vraiment apprécié apprendre à connaître Anne, qui est vraiment une personne passionnée. Elle est vraiment passionnée par tout ce qu'elle fait, donc autant dans son travail, elle en parle très facilement, de façon vulgarisée, imagée, ce qui aide à comprendre un petit peu mieux, puis à nous rassurer aussi sur ce qu'elle fait sur l'intelligence artificielle, mais aussi elle est passionnée par rapport à ses implications. Puis, je trouve ça très beau qu'elle utilise sa propre histoire pour faire en sorte qu'elle... d'inspirer d'autres personnes finalement, mais aussi de s'inspirer elle-même, de se motiver elle-même à s'impliquer dans ces choses-là. Donc, je trouve ça vraiment, vraiment très beau puis très inspirant. Toi, Léa, qu'est-ce que tu as pu apprendre dans ce podcast-là?
Bien, moi, j'ai aimé qu'elle parle de courage. J'ai l'impression qu'on parle très, très peu de courage. Puis en équité, en diversité et en inclusion, enfin, tout ce qui y touche. Je pense qu'on oublie que souvent, ça mérite beaucoup de courage, notamment pour relever des biais. Puis on sait qu'en intelligence artificielle, il y a beaucoup de biais puisqu'il y a un humain derrière. Ça, je pense à cet exemple très connu où une intelligence artificielle de reconnaissance faciale avait un biais pour reconnaître les personnes de couleur. J'ai aimé aussi qu'elle parle de créativité et de se forcer à s'ennuyer, puisqu'on a tendance à fuir l'ennui, notamment par le biais de l'utilisation de réseaux sociaux. Je pense vraiment que cet ennui-là nous permet de nous épanouir et c'est ça, de devenir créatif ou créative.
C'est vraiment des bons points de réflexion que tu nous ressors là, puis je suis d'accord avec toi, c'était vraiment, vraiment tout pertinent.
On espère que vous avez appris aussi beaucoup de choses dans ce balado avec Anne Nguyen. Et on vous souhaite une bonne journée.